d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi ce soir, c'est l'émission d'AC, Agir ensemble contre le chômage. C'est une émission sur le chômage et la précarité. Évidemment, comme l'actualité le veut, nous parlerons bien sûr de l'assurance chômage et des implications de la nouvelle monture qui s'est faite ces derniers temps, qui mettent donc en mal les demandeurs d'emploi et qui attaquent un peu partout ces pauvres demandeurs d'emploi avec plus de sanctions, moins d'indemnités, etc., etc. Alors, nous avons du son, je crois, Ludo. Bonjour, Ludo.
Bonsoir. Voilà. Il y avait une mobilisation le 30 juin, le matin devant l'UNEDIC, c'était dans le 12e, rue 4 rue Traversière. Et le soir, il y avait une AG des chômeurs pour voir comment le mouvement allait continuer. Donc, c'était évidemment pour demander la suppression de la réforme de l'assurance chômage qui avait pris effet le 1er novembre 2019, avec un recalcul des droits, et du deuxième volet de cette même réforme qui rentre en vigueur le 1er septembre. Hein. Pour présenter la réforme, on va écouter le collègue de la CGT chômeur qui est intervenu dans l'agenda deux jours avant la manif et qui n'a pas souhaité se présenter, donc pour se mettre en avant. Donc on l'écoute.
Très bien.
Tel quel. Est-ce qu'on peut dire que c'est le début d'un mouvement au long cours, en quelque sorte, des chômeurs et précaires pour la suppression de la réforme, notamment qui rentrera en vigueur le 1er septembre. Peut-être qu'on peut expliquer au micro ce qu'est la réforme aussi.
Oui, voilà, c'est ça. Donc là, c'est un premier rendez-vous. Donc ce premier rassemblement-là, c'est pour dire qu'il y a eu déjà 177 000 nouvelles inscriptions en mars en catégorie A à Pôle emploi, plus de 200 000 en avril, 61 000 encore aujourd'hui. Le nombre de chômeurs n'arrête pas comme ça de grossir. Et le gouvernement, lui, il veut maintenir sa réforme qui est faite pour punir les privés d'emploi et les précaires, pour nous forcer à accepter tous les contrats, même avec ceux avec les conditions de travail les pires. Donc cette réforme-là qui était faite pour punir et qui était en deux vagues, hein, la première vague qui est déjà rentrée en application et qui a augmenté le nombre de mois nécessaires pour pouvoir ouvrir des droits, donc on est passé de 4 à 6 mois et qui a impacté 700 000 travailleurs précaires qui ne peuvent plus ouvrir de droits à l'instant T auquel ils auraient pu avant ce décret-là. Et puis la deuxième vague qui a été reportée de quelques mois et qui là va rentrer en application en septembre et qui elle va baisser l'indemnisation en moyenne de tous les chômeurs de 22%, et pour les travailleurs les plus précaires, notamment ceux qui sont en extra ou les saisonniers qui seront aussi avec nous devant l'UNEDIC, et ben eux, ça va être une baisse de leur indemnisation jusqu'à 75%. Donc nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que la première chose, c'est qu'il faut annuler cette réforme-là, il faut prolonger les droits de tous les chômeurs, comme ce qui a été fait pour les intermittents, il faut le généraliser à l'ensemble des travailleurs privés d'emploi, donc une prolongation d'un an des droits de tout le monde, et puis mettre vite sur la table de nouvelles négociations d'assurance chômage qui devront avoir pour but d'indemniser tous les chômeurs, parce qu'encore une fois, ceux qui licencient, c'est le patronat. Là, on voit en plus que ça se succède à Air France, à Luxfer, dans l'automobile. Voilà, il y a les plans licenciements qui s'accumulent. Donc il faut que l'État y dise on sauve l'emploi partout où c'est possible et on protège les travailleurs quand ils sont privés d'emploi.
Oui, pour expliquer aux auditeurs très clairement, c'est qu'en fait la réforme qui va rentrer en septembre prend en compte le temps partiel et donc expose justement, alors tous ceux, les gens qui font des extras, les intérimaires, tout ça, elle prend en compte le temps partiel dans le calcul de l'indemnité, ce qui fait mécaniquement en fait baisser l'indemnité, donc dans des proportions extrêmement importantes.
Pour les retraites, dans le calcul de l'indemnisation chômage, il y aura la prise en compte des jours non travaillés. Donc si moi par exemple j'ai commencé le 1er janvier et que j'ai terminé le 1er décembre, et que sur cette période-là, j'ai accumulé 6 mois de travail, donc 6 mois de travail sur 12 mois, mon indemnité chômage, elle va être divisée par le nombre de jours calendaires, donc c'est-à-dire par 365, Or, je n'aurais travaillé que la moitié. Donc, automatiquement, mon indemnisation, elle va être diminuée par deux. Ouais. Voilà, c'est la prise en compte des jours non travaillés dans le calcul du salaire journalier de référence.
Et la tartufferie du gouvernement va jusqu'à prétendre qu'en réalité, les droits ne sont pas diminués, puisqu'en fait, on les allonge dans la durée.
Alors, évidemment, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, on va avoir des droits plus pourris, plus faibles, et sur une période qui sera plus longue. Parce que, auparavant, avant le décret, j'aurais une indemnisation à 60, en moyenne, 62% de mon ancien salaire sur la période travaillée, donc c'est-à-dire 6 mois. Là, j'aurais une indemnisation sur la période de référence de calcul, donc c'est-à-dire sur les 1 an, mais avec une indemnisation qui sera deux fois plus faible. Donc là, on voit bien que cette réforme-là, elle est faite pour punir les travailleurs précaires, et puis dans la continuité, je dirais, des réformes Macron, les ordonnances, la réforme El Khomri, pardon, les ordonnances Macron, en fait, c'est de faire accepter les travails, même ceux qui sont, par exemple, très faiblement rémunérés. Parce que si moi, mon indemnisation, mon salaire antérieur, pardon, sur lequel mon indemnisation chômage a été calculée, était, par exemple, de 1 800 euros, là, actuellement, je peux dire, là, l'offre de travail qu'on me propose est à 1 200, ça ne me convient pas au niveau du salaire, parce que, par exemple, j'ai des expériences, donc je n'accepte pas cette offre. Mais quand l'indemnisation chômage elle est réduite par deux, et donc on va passer de 1 200 euros à 600, et ben voilà, il faudra mettre du beurre dans les épinards. Et donc le gouvernement, ce qu'il est en train de faire, c'est d'affamer les travailleurs privés d'emploi pour nous forcer à accepter n'importe quel travail. Voilà, et ça c'est inacceptable. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est protéger. Et aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est plutôt d'y mettre en place une politique de l'emploi qui réponde quand même aux besoins sociaux. Là, on a vu la crise du coronavirus. L'hécatombe que ça a été, parce que notre service public de l'hôpital, on l'a dépecé, on a supprimé des lits, on a fermé les hôpitaux de proximité. Voilà, aujourd'hui, c'est quand même ça qu'il faut regarder. Mettre en place une politique de l'emploi, de la formation professionnelle qui répond aux besoins sociaux et pas aux desiderata et aux impératifs de profit des capitalistes. Quoi.
Oui, voilà. Et donc, pour finir, hein, sur le dossier, on peut dire aussi que c'est une réforme hein, sur le chômage qui est particulièrement à propos, parce qu'évidemment, il l'a proposé avec des chiffres soi-disant à 7,5%. Mais aujourd'hui, voyez-vous, avec le million en plus depuis le début du confinement, évidemment, c'est une politique accepter n'importe quel emploi. C'est une politique qui est impossible. Faut-il qu'il y ait de l'emploi, bien entendu, parce que voilà. Donc, du coup, juste une dernière question. J'aimerais savoir où en sont les négociations, en fait, sur cette question avec le gouvernement, puisque quand même, en principe, on peut penser que les syndicats n'allaient pas rester inactifs.
Alors, il n'y a pas de négociation. Hein, c'est-à-dire que non seulement il n'y a pas de négociation sur l'assurance chômage, mais en plus, quand le gouvernement appelle les organisations syndicales à discuter, parce que le gouvernement il ne fait que de discuter, il n'y a pas de négociation. Hein. Quand le gouvernement il appelle les organisations syndicales à discuter du sujet de l'assurance chômage, en fait, jusqu'aujourd'hui, c'est pour l'imbriquer avec d'autres discussions, notamment sur l'apprentissage. Et en gros, pour le gouvernement, lui, la réponse au chômage de masse, c'est l'apprentissage pour tous les travailleurs qui ont moins de 30 ans, donc c'est-à-dire le SMIC jeune, hein, parce que quand même que je rappelle que l'apprentissage, la rémunération salariale, c'est 80% du SMIC. Donc pour le gouvernement, la réponse au chômage de masse, c'est le SMIC jeune, c'est le retour du CPE. Voilà, donc ça c'est inacceptable et on ne discute pas des droits. On ne discute pas des droits des privés d'emploi, on ne parle pas de l'indemnisation chômage et on ne parle pas, par exemple, de la voie professionnelle publique, c'est-à-dire du lycée pro. Le gouvernement, il met 2 milliards pour l'apprentissage, il ne met rien ni pour les lycées professionnels, ni pour l'indemnisation des privés d'emploi. Et aujourd'hui, quand même, c'est de ça qu'il faut parler. La reconquête des services publics et la reconquête de notre système de protection sociale. Et nous, on donne un point de départ là tous ensemble avec beaucoup de collectifs, notamment Action Précaire Île-de-France et aussi Précaires des Terres, des collectifs de travailleurs précaires, notamment dans l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, avec nos camarades du CPHRE et de l'OPRE.
Oui, voilà, donc c'était absolument fort intéressant, puisque effectivement, ce qui nous attend là pour les chômeurs, c'est extrêmement gravissime pour le coup, oui, puisque plus de sanctions, moins d'indemnités, on n'est pas indemnisé pendant les vacances. Oui. Pas d'invité pendant les vacances, donc là, on risque d'avoir un... Mais apparemment, ça va changer en septembre.
Alors, il y avait une réunion le 2 juillet, oui, devant le ministère du Travail, et donc il s'agissait de rencontrer un conseiller de Muriel Pénicaud, mais il se murmurait que tant que le remaniement n'aurait pas lieu, on ne ferait rien. Et donc, le 2 juillet, il y avait surtout des gens qui étaient présents, les gens de l'intermittence ou de l'hôtellerie, parce qu'en fait, eux perdent un maximum de choses depuis la suppression de l'annexe 5, qui indemnisait les intérimaires. Donc ils sont au régime général et bah, les extras, c'est eux qui vont manger, entre guillemets, hein, le maximum avec l'entrée en vigueur en 1er septembre de la réforme du temps partiel.
Très bien. On va écouter, on a un appel. Allô ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, merci d'avoir appelé, bienvenue parmi nous. Je crois que tu es dans l'hôtellerie, c'est ça ?
C'est exactement ça.
D'accord. Quel est ton poste exact aujourd'hui ?
Comment ?
Ton poste exact, tu es responsable ?
Responsable, exactement, responsable.
D'accord. Alors, est-ce que tu étais devant le 2 juillet, devant le ministère du Travail avec tes...
Alors, j'étais bien sûr le 2 juillet, j'étais aussi le 30 juin pour la marche devant l'UNEDIC.
Oui.
On était le 2 juillet pour les discussions avec M. Ferracci,
oui.
Donc le conseiller de Mme Pénicaud, et voilà, c'est des réunions pour nous qui servent strictement à rien. Puisque c'est des réunions où il nous dit tout simplement que comme il y a peut-être un remaniement qui va être fait, pour l'instant, ils vont rien faire.
D'accord.
On avait déjà eu M. Ferracci, il y a un mois, qui nous avait dit, pour l'instant, on fera peut-être des aides. Voilà, on fera peut-être des aides pour les plus précaires. Mais je pense qu'il n'a pas notion dans la situation que sont les extras. Je parle des extras pour que ce soit plus simple pour tout le monde, pour les anciens intermittents de la restauration. Ils ne se rendent pas compte dans l'état d'urgence dans lequel on est.
D'accord. Alors pour le coup, là, dans votre secteur, qu'est-ce que vous allez perdre avec cette nouvelle convention ? Alors pour le coup, quels sont les points forts ou les points faibles de cette nouvelle convention ?
Alors en fait, cette nouvelle réforme, elle est voilà, comme on a dit, en deux parties.
Oui.
Il y a une première partie qui est déjà actée depuis novembre 2019. Là, c'était surtout sur l'accession au droit. Hein. C'était surtout la chose primordiale. C'était voilà, avant, il fallait 4 mois sur les 24 derniers mois pour être accédant aux assédiques. Et maintenant, en fait, c'est passé à 6 mois. En fait, ce que ça a impliqué dû au coronavirus, c'est que par exemple, il y a des gens qui sont arrivés en février ou en début mars. Qui aurait pu avoir les 610 heures nécessaires auxquelles on avait le droit avant, mais qui du coup n'avait pas maintenant les 910 heures qui sont nécessaires. Du coup, il y a des personnes qui, au mois de février, au mois de mars, ne touchent plus rien de l'État.
Oui.
Ils n'ont pas le droit à Pôle emploi parce qu'ils n'ont pas fait leurs 910 heures. Et tout dépend comment ils sont dans leur couple, ils n'ont même pas le droit au RSA. Donc moi, j'ai des gens dans mon équipe,
oui,
qui ont zéro. Donc zéro depuis mars, on est au mois de juillet, ça fait 4 mois qu'on s'entend, ça fait 4 mois qu'on nous fait patienter, et ça fait 4 mois que des gens n'ont plus rien à manger, tout simplement.
D'accord, donc toutes les belles promesses du gouvernement, comme quoi dans le cas du coronavirus, on allait aider les petites entreprises ou même les grandes, ça ne marche absolument pas pour le coup.
Pas les travailleurs en tout cas.
Pas les travailleurs, c'est sûr.
D'accord. C'est exactement ça. Nous, faut quand même comprendre que voilà, le confinement a été décrété le 17 mars.
Oui.
Nous, il faut savoir quand même que depuis février, hein, les affaires s'annulent parce que le corona était déjà là. Et donc, il y avait des grosses prestations hein, n'importe où, hein, dans les châteaux, au Parc des Princes, etc., dans les congrès. 700-800 personnes, ça s'annulait déjà en février. Donc, nous, c'est-à-dire que déjà, notre situation était déjà très délicate en février.
Oui.
Et depuis mars, moi, personnellement, qui suis pourtant responsable d'équipe, j'ai travaillé deux fois. Donc deux journées depuis le 17 mars. On est le 2 ou 3 juillet.
D'accord. Alors, on sait que l'hôtellerie et puis la restauration sont des professions en tension, on va dire ça comme ça, puisqu'il y a beaucoup d'intérimaires, beaucoup d'extras, etc. Des gens qui sont en CDD pour un jour, hein, voire même plusieurs heures.
Exactement.
D'accord. Donc la nouvelle convention là, va plus attaquer encore ces gens-là, en fait. C'est ça.
C'est exactement ça. Alors
d'accord.
Là, bon, il y a eu, bien sûr, il y a eu le coronavirus entre-temps, mais déjà cette situation était déjà anormale, c'est-à-dire que le volet 2, qui était censé arriver le 1er avril 2020, qui a été repoussé au 1er septembre 2020, va attaquer directement les gens sur leurs droits. C'est-à-dire que avant, je vous dis une bêtise, sur un an, vous gagnez 15 000 euros.
Oui.
Vous divisiez tout simplement par le nombre de jours que vous aviez travaillé, pour simplifier. Il y a quelques petits trucs, mais pour simplifier, c'est exactement ça. Maintenant, ce ne sera plus comme ça. Vous prendrez 15 000 euros et vous divisez par 365 sur une année calendaire, voilà, une journée calendaire. Donc
c'est tout
simplement une catastrophe.
Ah oui. Ça veut dire que les vacances, éventuellement, ne sont pas payées, ce genre de choses.
Même pas, toutes les périodes d'inactivité ne sont pas payées.
Toutes les périodes d'inactivité ne sont pas payées, c'est ça. Donc ça peut diviser par
autant de jours non travaillés, en fait.
C'est ça.
En fait, voilà, c'est après, voilà, tout, chacun a des, voilà, c'est des, on appelle ça nous des taux, chacun a des taux journaliers différents, mais par exemple, une personne, voilà, qui gagnait peut-être 1800 euros, voilà, va passer aux alentours de 900 ou 1000 euros par mois si elle ne travaille pas du tout. Donc, ça va être une catastrophe, hein, faut vraiment le savoir. Je pense que sont au courant, mais ils ne font rien du tout. Donc, déjà, cette réforme est complètement hallucinante. Et en plus, nous sommes anciennement, je parle pour la restauration événementielle.
Bien sûr, bien sûr.
Nous avons été sortis de l'annexe 4 en 2014, c'est-à-dire que nous sommes avec le régime général, c'est-à-dire avec tous les chômeurs, mais il faut comprendre que notre métier est très spécifique. Comme les intermittents du spectacle, nous avions avant eux, les intermittents du spectacle ont une annexe 8 et 10 qui leur sont consacrées. Nous, avant, on avait la même chose. On a été, je ne sais pas pourquoi, transféré sur ce régime général et pour nous concrètement là à l'heure actuelle c'est une catastrophe. On aurait eu notre annexe, on aurait eu le gel et la prolongation des droits comme les intermittents du spectacle, c'est-à-dire que eux ils sont prolongés quand même jusqu'en août 2021. Oui. Donc ça laisse le temps de quand même si l'activité ne reprend pas, si ça reprend fin d'année, il y a une petite marge de manœuvre quand même pour pouvoir refaire des droits. Là nous n'avons aucune marge de manœuvre, c'est-à-dire que nous n'avons pas de travail.
Oui.
On n'a pas d'aide et on n'a strictement rien en fait. On n'a strictement rien comme aide de l'État.
Moi, je crois qu'il y a une injustice. Hein. Je dis ça, je prends un peu parti, mais il y a une différence de traitement parce que les intermittents du spectacle, ils ont été médiatisés, ils ont eu des relais, il y a eu tout un brassage. Mais en réalité, le gouvernement, il cherche juste à faire des économies. Et en fait, il a fait, je crois, pareil avec les intérimaires, en fait, hein, parce que je crois que c'est l'annexe 5.
Exactement ça.
Voilà. Alors que vous-même, vous en avez peut-être encore plus besoin que les intermittents du spectacle, quelque part.
Nous, vous savez, les intermittents du spectacle ont sur la méthode d'avoir leurs calculs et avoir leurs droits, ont quelques différences par rapport à nous anciennement, ce qu'on avait quand on était intermittent de la restauration. C'est vrai que nous avons peut-être plus de facilité à avoir du travail. Nous, ce que l'on veut, c'est en fait, nous, on veut travailler, en fait. On ne demande pas la charité, en fait.
Bien sûr.
Faut comprendre ça, hein. Faut que les gens comprennent bien que nous, en fait, on n'attend qu'une chose, c'est de travailler. Moi, j'ai travaillé hier pour la première fois depuis 4 mois. Moi et mes équipes, on était très contents, je peux vous l'assurer. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a, à l'heure actuelle, dans les équipes, nous faisons des cagnottes litchi pour que des personnes puissent manger. C'est-à-dire qu'on en est vraiment à ce stade-là. Parce que si des personnes n'ont rien depuis février, c'est zéro. S'ils ont de la chance, je dis bien de la chance, parce qu'on est quand même en France, on a quand même de la chance là-dessus, mais d'avoir le RSA, ils sont aux alentours de 700 euros. Et s'ils sont à deux, ça fait 1000 euros. 1000 euros à deux avec des enfants et un loyer à payer, je ne sais pas. Moi, concrètement, là, à l'heure actuelle, je ne sais pas comment ils font. Moi, j'ai des gens qui arrêtent le métier, j'ai des gens qui arrêtent, qui vont en Bretagne, qui vont en province, qui s'en vont chez leurs parents. Moi, j'ai des amis. C'est leur mère, ils ont 40 ans, c'est leur mère qui leur paye le loyer et qui leur fait des courses. Voilà. Et quand on va à des réunions qui, pour nous, sont indispensables et importantes, on nous envoie, pas on nous rigole au nez, mais bon, on va patienter, on va attendre un peu. Mais en fait, non, on n'a pas le temps d'attendre, quoi. On n'a plus le temps d'attendre.
Alors, je crois que votre collectif a envoyé un courrier au gouvernement, je crois que c'est au président Macron, non, c'est ça ou...
Écoutez, on a envoyé, je pense, 9000 courriers depuis 4 mois.
D'accord.
Notre organisation OPRE, c'est l'organisation du personnel de la restauration événementielle.
Oui.
Nous n'existions pas, vous avez très bien dit tout à l'heure, les intermittents du spectacle, il y a une injustice, hein, faut quand même parler d'injustice. Nous, c'est nos collègues, les intermittents du spectacle, on travaille avec eux toute l'année. On est avec eux sur les événements, c'est-à-dire que quand vous avez un gros événement de 100 personnes, il n'y a pas que de la nourriture, il y a évidemment de la projection, il y a des lumières, il y a des micros, donc on est avec eux, on fait exactement le même métier qu'eux, sauf que c'est un autre métier. Mais c'est exactement la même chose, c'est la même permittance de l'emploi. Et nous n'avions pas de... Voilà, on est un petit milieu, nous sommes 20 000 en France, hein, je parle vraiment de là, juste des maîtres d'hôtel et des cuisiniers, c'est-à-dire les serveurs et les cuisiniers. Après, il y a bien sûr d'autres personnes qui viennent se regrouper avec nous, mais on est complètement abandonné sur ce sujet-là, quoi.
Oui. Alors sur ces 9000 courriers, combien vous avez reçu de réponses?
Alors écoutez, on a un taux de réponse qui est assez faible, je dirais 5% de tout ce qu'on a envoyé, on a eu des réponses. Donc bien sûr, on a envoyé à tous les députés, on a envoyé à tous les sénateurs, on a envoyé bien sûr à Madame Pénicaud, à tous à toutes les personnes qu'on pouvait, on l'a envoyé à tous les médias. Nous avons fait des manifestations, des actions sur Paris. On a déposé 400 chemises blanches au pied de la Tour Eiffel. Nous avons fait la même chose au château de Versailles. Nous avons fait déplacer, nous sommes 5000 en Ile-de-France, nous avons fait déplacer 1000 personnes à l'hôtel de ville il y a ça 2 semaines pour manifester, pour des actions entre guillemets pacifiques et pour être vues, entendues. C'est pas assez, les médias ne parlent quasiment jamais de nous, ils sont pourtant là, ils nous répondent, mais ils ne font pas l'effort de nous passer pour des endroits stratégiques. On passe pas aux 20h. Vous voyez, c'est pas qu'on a aucune visibilité. Notre métier, évidemment, c'est d'être le plus discret possible. Évidemment, nous sommes des professionnels. On sert bien sûr Monsieur Macron, on sert les présidents, on sert Madame Pénicaud. On s'en occupe de ces gens-là. On travaille dans les ministères, on travaille dans les congrès, dans les mairies. On les sert tous les jours. Et pourtant, là, on ne se souvient plus de nous. On est complètement oubliés.
D'accord. Et donc, j'imagine que dans ce courrier que vous avez envoyé à toutes ces personnes, vous avez fait des propositions pour que les choses s'améliorent, etc. Est-ce que les réponses étaient franches ou elles étaient un peu évasives, du genre on s'en occupe, on verra plus tard?
Écoutez, nous, sur Hop, on est bien sûr, on a fait des propositions, évidemment. Nous sommes prêts, nous, à faire des concessions, évidemment, que nous, moi je parle évidemment, je parle pas au nom de tous les précaires, évidemment, je peux pas connaître toutes les situations, moi je parle vraiment au nom de la restauration événementielle que l'on représente. Nous, évidemment, on fait des propositions, nous revoulons une annexe, nous désirons une annexe pour avoir cette protection qu'ont eu les intermittents du spectacle. Nous sommes prêts, bien sûr, à faire des concessions sur des jours. Là, j'entendais la personne de la CGT tout à l'heure qui était aussi là à la marche de midi. On nous donne des 700, des 800 jours. Ça n'a strictement aucun sens. Vous pouvez nous donner 800 jours à 20 € par jour. C'est pas ça qui va nous faire manger, bien en sûr. Fait. Donc, vaut mieux avoir moins de jours et avoir un taux convenable pour pouvoir nourrir ses enfants ou pour pouvoir avoir une vie concrète. Parce qu'il faut savoir que nous, en tant qu'intermittent, quand vous allez à la banque en tant qu'intermittent, on vous rigole au nez. Pour avoir un crédit, c'est très compliqué. Pour avoir la moindre chose, c'est très compliqué. Nous n'avons aucune case à notre pour nous quand on demande de remplir des formulaires. Il y a rien pour nous, aucune case. On n'a aucune case. Et du coup, à être dans aucune case, on est complètement oublié. On est complètement oublié de toutes les réformes et de toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement.
D'accord. Alors déjà, je tiens à te dire que nous sommes ici dans cette station. Nos portes sont complètement ouvertes pour votre collectif, hein, évidemment, au téléphone ou bien physiquement.
C'est
voilà.
Très gentil.
Voilà, il n'y a pas de problème, tu viens avec tes camarades quand tu veux, sans souci. Nous soutenons bien sûr la cause depuis longtemps. Je voulais simplement savoir si dans les prochains, je pense que bon, il va y avoir les vacances d'été, est-ce que vous avez des actions à mener dans ces vacances ou vous êtes reparti?
Alors, ça va être assez simple, vous l'avez très bien dit, il y a les vacances qui arrivent, il y a des gens comme nous aussi qui ont besoin de souffler aussi, et c'est évident. Maintenant, non, évidemment, nous, on ne s'arrêtera pas là. Nous allons essayer de faire des actions pendant aussi ces vacances. Il y en aura sûrement une la semaine prochaine. On est en train de voir exactement ce que nous allons faire. Mais ce qui est sûr et certain, si aucune mesure n'est prise pour nous avant septembre, il est bien évident que toutes les manifestations, tous les événements qui seront organisés à partir du 1er septembre seront bloqués. C'est aussi simple que cela. Voilà. Je vous parle, il y a des gros événements qui vont arriver, tels Roland-Garros, tels peut-être des congrès qui vont être amenés je ne sais où. Nous bloquerons tout. C'est-à-dire qu'on n'enverra personne de l'événementiel, de la restauration événementielle, personne n'ira travailler. On ne peut pas concevoir que nous sommes oubliés à ce point-là. La seule... On n'a pas envie de faire ça, hein, vous savez, c'est
oui, bien sûr,
ça
oui.
Va nous arriver. C'est pas du tout notre état d'esprit quand on a créé ce collectif, nous, il y a 3 mois. C'était pas du tout notre envie. On pensait vraiment, et sincèrement, hein, on pensait vraiment que quand il y a eu des mesures, les mesures, elles seraient pour tout le monde, en fait. Et nous, non, on a vraiment été oubliés. Donc là, on peut pas rester comme ça. On peut pas voir nos collègues déménager, se démoraliser. On a des collègues qui sont en pleurs tous les jours au téléphone, qui nous appellent, qui cherchent du soutien. On ne peut pas rester comme ça. Donc, ce qui est sûr, c'est que faut bien qu'ils l'entendent, c'est que tous les événements à partir de septembre, si on n'a pas de mesures, seront bloqués. Que ce soit à l'Élysée, que ce soit dans les mairies, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les congrès, dans les portes de Versailles, dans les événements, tout sera bloqué.
Mais ça, c'est une bonne action. D'ailleurs, comme le fait d'occuper des lieux, c'est aussi une action différente, mais qui peut parfois porter ses fruits. J'espère en tout cas qu'ils vous entendront.
C'est dommage d'en arriver là.
Absolument.
Je pense que ce qu'on demande, c'est quand même très concret et ma foi, somme toute logique. Là, on est en train de faire mourir des gens, tout simplement.
Bien sûr.
Donc, nous, ce n'était pas vraiment notre but au départ. Il faut vraiment le savoir. On a voulu faire le maximum de choses pacifistes dans l'ordre, dans les respects, dans la crise sanitaire. On a respecté ça à fond. Maintenant, je pense qu'on va passer la seconde, on va durcir le ton. Il va falloir vraiment que des mesures soient faites, parce que je vous rappelle peut-être que dans 4 ans, il y a les JO, ça peut paraître loin, mais ça va aller très vite.
Oui.
Les JO à Paris, sans personnel, ça va être dur. Je pense que Paris et la France comptent sur ces JO aussi pour se refaire une santé, je pense économiquement. Je pense que si nous, on décide de tout bloquer avant, après, pendant, ça risque de chatouiller un petit peu le gouvernement.
Très bien, merci en tout cas d'avoir appelé Nicolas. Sache que tu reviens ici quand tu veux. Hein.
C'est très gentil, merci.
Et bonne lutte.
Bonne lutte, oui, ciao.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au premier temps de l'emploi, j'ai le choix. Ça c'est pour que dalle aussi, moi je passe mon temps à renvoyer des gens. Allez hop du balai, ils disent à la télé que c'est très bien de faire ça, que ça crée plein d'emplois. Et depuis que je licencie, je fais tellement de profit que j'ai dit à Doudou, toi aussi mets les bouts, avec tout ce que j'amasse, je peux m'en prendre le plus classe.
Ah, c'était excellent, ça a été de circonstances en plus. Alors c'était la valse de l'emploi des goguettes en trio. Donc bravo à eux, merci pour ce petit sourire dans cette émission qui est bien dure pour ce soir. Donc on reprend cette émission avec Ludo au micro. Bonjour Ludo.
Oui, bonsoir.
Gilles, et puis bien sûr Claude à la technique. Merci à Claude aussi pour la technique.
Oui, je voulais faire une remarque par rapport à la dernière interview, sachant qu'on va en passer une autre sur le même sujet. C'est que, en fait, avec la crise du coronavirus permet de faire comprendre éventuellement, on espère au gouvernement, que les statuts, notamment pour l'assurance, pour les assurances chômage, ils n'ont pas été créés pour rien. C'est-à-dire que le statut de, évidemment, des intermittents du spectacle, mais ça, on n'y a pas touché, mais le statut des intérimaires, le statut des extras, c'était justement parce qu'on considérait que la précarité, ça se payait. Et enfin, je rappelle, par exemple, que pour les intérimaires, quand il y a une crise, c'est les premiers qui mangent.
Bien sûr.
Et c'est eux, en fait, qui servent de volant, on dit qu'ils servent d'ajustement. Donc c'est les premiers qui n'ont pas de travail qui vont devoir, qui payent pour les autres, quoi, qui ont une réduction de revenus. Et c'est pareil en l'occurrence pour les extras. Et donc à vouloir niveler tout le monde par le bas et à vouloir faire des beaux statuts communs à tout le monde, parce que là ce qui se passe c'est que les extras en fait ils sont piégés. À partir du moment où ils passent dans le régime général, on dit mais tant qu'on touche pas au régime général, vous êtes comme tout le monde, on touche pas au régime général, on ne supprime pas la réforme. Et on peut rien faire comme mesure catégorielle pour vous au niveau de l'assurance chômage. Et donc, ils se retrouvent piégés dans cette trappe alors que leur activité est complètement différente des autres. Et donc, je veux dire, ici et partout, on milite, enfin, on est en train de s'apercevoir, on milite pour prendre en compte toutes les discontinuités,
surtout,
voilà, mais toutes les discontinuités d'activité et reconstruire un statut qui permette cette discontinuité d'activité et rappeler au gouvernement qu'on n'a pas inventé la précarité. Et que la précarité, elle se paye à la fin.
Bien sûr, merci pour cette remarque tout à fait. Oui. Mais c'est vrai que c'est légitime que de payer.
C'est scandaleux. Là, c'est vraiment un cas d'espèce où ils n'ont plus rien pour vivre. Et ce qui les attend est encore pire.
Et d'autant plus que normalement, sur une fiche de paye, tu as un pourcentage qui va à l'assurance chômage, que ce soit salarial ou patronal. Et apparemment, là, ils ont supprimé les cotisations patronales.
Et ils ont baissé les cotisations.
Ils ont baissé
les cotisations pour pouvoir dire que c'est eux-mêmes qui ont la main. D'ailleurs, Macron l'avait déclaré dans sa campagne présidentielle. Je pourrais faire ce que je veux dans la mesure où c'est l'État qui dictera les règles, puisque le financement viendra de lui.
Ils sont absolument cyniques. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Je tiens à vous faire passer un petit son que j'ai enregistré dans la manif de mercredi matin devant le MEDEF. On écoute.
Et c'est pour ça qu'on est ensemble. Nous, à la CGT, on dit que dans la rue, il y a une barricade, il y a le camp du travail et il y a le camp du capital. Nous, il faut qu'on se regroupe, il faut qu'on se regroupe. Les travailleurs, le camp du travail, il faut qu'on se regroupe. Et nos droits, on va aller les chercher. Le gouvernement, en 30 ans, c'est 300 milliards d'euros qui sont passés des poches des salariés, de leur salaire, à celle des actionnaires et au profit. Voilà, et bien là, on a tout l'argent qu'il faut pour nos mesures, c'est ces 300 milliards d'euros-là, et on ne va pas se laisser voler, on ne va pas se laisser voler l'argent de la sécurité sociale, parce que le gouvernement, là on est devant une éthique pour l'assurance chômage, mais il y a aussi la retraite, et là le gouvernement, lui qui attend 10 heures, c'est simple, c'est braquer la banque de la sécurité sociale, c'est 400 milliards que le gouvernement, il peut nous voler, pour donner aux assureurs privés, pour donner aux patronats, et nous demain, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire des droits qui seront encore plus faibles qu'aujourd'hui. Enfin, ça, c'est l'annonce de septembre, les indemnités chômage, il faut qu'on se rende ça dans le crâne, elles vont être inférieures au RSA. Donc nous, on n'est pas d'accord avec ça, on a dans le viseur les 300 milliards, on va récupérer tout ce qu'ils nous ont volé, on va le reprendre, parce que cet argent-là, c'est le nôtre. Ceux qui produisent les richesses dans les tôles, c'est nous, c'est pas le patron, on n'a pas besoin d'eux. Là, vous le savez, vous le dites vous-même, c'est la vitrine de la France, c'est les travailleurs. Donc ça sera à nous d'aller chercher tous ensemble cet argent-là qui est le nôtre et que le patronat, ils nous veulent toujours. Donc à 18h, on va se réunir sur les pelouses de Bercy vers la Cinémathèque française. On vous donne rendez-vous et là, on va partir dans une quinzaine de minutes.
Poser quelques questions
bien
par
sûr.
Rapport à quoi vous êtes là.
Bien sûr.
Bonjour monsieur.
Bonjour François Chou, maître d'hôtel responsable depuis 20 ans dans l'événementiel.
D'accord. Vous pourriez m'expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui?
On est là aujourd'hui parce qu'après plus de 3 mois de tapage médiatique, le courage de l'État est en train de fuir. On n'a toujours pas de rendez-vous ni avec Madame Pénicaud, ni avec Monsieur Darmanin, ni avec le Premier ministre, encore moins avec le président. Et pour l'instant, nous sommes en train de crever les uns après les autres. Les gens sont en train de vendre leur maison, vendre leur appartement et de quitter complètement le secteur. Quand l'État va se réveiller, on ne sait pas quand, notre secteur sera dévasté et on a un métier dans l'événementiel de luxe qui ne s'apprend pas à l'école. Donc quand les anciens ne seront plus là pour nous apprendre à la nouvelle génération, eh ben ça ne deviendra plus un travail, un travail chic et choc, ça deviendra un job. Et aujourd'hui, on a besoin d'autre chose que des serveurs qui vont servir à McDonald's.
Ben, on sait depuis longtemps que tout ce qui est de l'hôtellerie, la restauration, c'est beaucoup de vacations, de CDD, etc. Qu'est-ce qui change avec cette nouvelle réforme?
Ce qui change avec cette réforme, c'est l'accès au chômage qui devient beaucoup plus compliqué. Et surtout, avant, on était calculé sur le nombre de jours où on travaillait pour pouvoir avoir une moyenne, pour pouvoir avoir un taux acédique. Et maintenant, on va être calculé sur l'ensemble des jours. Donc à savoir qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une journée fériée dans une semaine, on ne travaille pas de la semaine. Il y a toutes les vacances scolaires, on ne travaille pas. Donc ça va être un désastre financier. On ne touchera donc plus la CEDIC annuellement.
Vous représentez un syndicat, monsieur ?
On ne représente pas un syndicat, on représente une association qui s'appelle l'OPRE, Organisation du personnel de la restauration dans l'événementiel.
D'accord. Est-ce que vous auriez aimé participer aux négociations là, à l'UNEDIC pour éventuellement faire des propositions au patron, quoi ?
Clairement, l'UNEDIC, ça ne sert pas à grand-chose étant donné que c'est pas eux qui font les lois. Donc nous, ce qu'on attend, c'est avoir un rendez-vous avec monsieur Macron directement parce que c'est lui qui est capable de pouvoir porter notre dossier et pour pouvoir sauver ma circonscription avant l'été. Sinon, je pense que 50% de la population aura disparu.
Et monsieur Macron, vous l'avez contacté déjà ?
On lui a déjà envoyé plusieurs courriers, ainsi qu'à madame Pellicot, et pour l'instant, c'est sans réponse, malheureusement.
Merci, monsieur.
Merci.
Pôle emploi, FSU, comment ne pas s'étrangler d'indignation devant cette réforme ? En plus d'annoncer une véritable tragédie sociale, cette réforme est une nouvelle mise en pièce des règles de solidarité qui subsistaient encore dans l'assurance chômage. Cette réforme ne promet qu'une seule chose, faire peser toujours davantage le poids de la misère et de la culpabilité sur les plus démunis. Si on ajoute à ça le décret du 30 décembre 2018, le service public de l'emploi n'en finit pas de dévoyer ses missions vers le contrôle, la violence et la coercition. Pour le SNUP Pôle emploi FSU, nous tenons à réaffirmer notre soutien inconditionnel aux organisations de chômeurs et à leurs revendications. En tant que représentant des salariés de Pôle emploi, il est d'autant plus important pour le SNUP Pôle emploi FSU d'apporter son soutien aux organisations de chômeurs que les nouvelles dispositions légales contre les chômeurs cherchent à opposer les agents aux usagers. Or, ce n'est pas la vision que nous avons du service public, loin s'en faut. Le service public de l'emploi doit être au service des salariés privés d'emploi et non pas une structure de coercition et de sanctions pour imposer aux chômeurs n'importe quel boulot mal payé et de plus en plus précaire. Nous réaffirmons que le dévoiement de notre institution par les autorités politiques et économiques n'est pas une fatalité, qu'un autre modèle de service public de l'emploi est possible et que nous sommes nombreux à le défendre, à l'extérieur comme à l'intérieur de Pôle emploi. Merci.
Nous, les guides conférenciers, sommes complètement abandonnés. Les musées ont pourtant réouvert, mais où sont passés les visiteurs? Où sont-ils passés? Ils sont bloqués aux frontières et
voilà, donc c'était un petit enregistrement donc fait mercredi matin devant l'UNEDIC et non pas le MEDEF, je tiens à repréciser, je m'étais trompé tout à l'heure. Alors je tiens effectivement à dire que j'aurais dû faire un stage ou une formation pour enregistrer à l'extérieur, apparemment, sinon c'est le chômage d'office. Hein. Enfin bref, j'espère que c'était quand même assez clair. Voilà, donc on reprend cette émission, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, émission sur les chômeurs et précaires, avec Ludo au micro, moi-même Gilles et bien sûr Claude à la technique. Alors dis-moi Ludo, le niveau de chômage aujourd'hui est à la quantité, voilà. Combien est le chômage aujourd'hui?
Bonne question.
Très bonne question.
Eh bien écoute, il ne faut pas se fier aux chiffres officiels parce qu'ils n'existent pas.
Voilà.
T'as entendu ça? Tu crois, toi? C'est possible? Et c'est vrai.
Ah bon?
Et c'est, bien sûr, mais c'est vrai, absolument, puisque les chiffres officiels sont des chiffres trimestriels.
Oui,
et que leur dernière remonte à
avant
janvier,
mars,
février,
ça,
mars.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est mars. Et donc mars, et ben les gens ne se sont pas déclarés au chômage, donc le chômage a baissé en mars. C'était le 15 jours de confinement, je précise pour les auditeurs. Malgré tout, il y a un temps avant que les gens, comment dire, que les statistiques enregistrent la montée du chômage. Et donc je suis désolé, je n'ai pas de chiffres officiels.
Officiels.
J'en ai des officieux quand même.
Officieux, on est assez mignons de mémoire.
Alors voilà. Alors du coup, on s'est rendu compte aussi à la période du Covid que tout d'un coup, les chiffres de Pôle emploi, mensuels de Pôle emploi, avaient encore une valeur.
Ah.
Si, malgré tout. Et que, de toute façon, il ne fallait pas être grand clair pour mesurer qu'il y avait une explosion du chômage. Donc, au 25 juin 2020, il y a exactement 4,42 millions personnes en chômage total de catégorie A. Soit à peu près 1 million de plus que avant le confinement. Seule nouvelle relativement bonne, c'est que il y a des reprises d'emploi qui sont déclarées, c'est-à-dire que le chiffre du chômage a quand même baissé par rapport à mai depuis la fin du confinement de 150 000 personnes, et que l'activité réduite, elle par contre a augmenté de 210 000 personnes. Parce qu'en fait, c'était une catégorie qui était passée dans une autre. Hein.
C'est-à-dire que changé de catégorie. Monsieur.
Voilà, c'est-à-dire que des gens qui, ben justement, les extras, les guides conférenciers avaient dû arrêter leur activité. Donc voilà. Et donc effectivement, les vacances arrivent et énormément de choses ont été annulées au niveau des festivals, de tout ça. Donc il faut pas s'attendre à une baisse du chômage avant septembre minimum.
On va passer peut-être un deuxième son, c'est le son qui s'est fait également le même jour devant l'UNEDIC, hein, donc c'était mercredi dernier. On interroge d'autres personnes sur le sujet.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Quel est votre prénom s'il vous plaît?
François.
Quel est votre métier?
Moi je suis cuisinier dans l'événementiel depuis 25 ans. Ici on est en train de manifester pour revendiquer des droits qui vont être bafoués, qui vont être arrêtés au 1er septembre si la loi du chômage passe. Notre calcul va être fait de manière débile et va être calculé pour n'importe comment. Voilà.
D'accord. Parce qu'on sait depuis longtemps que dans la restauration et l'hôtellerie, il y a beaucoup de CDD, etc.
On était avant au régime 23, alinéa 4, et ce statut a été arrêté en 2014. Ensuite, on s'est fait tailler par calcul en 2017. Et actuellement, nos droits s'arrêtent. On n'a plus d'activité depuis mi-mars.
D'accord.
On n'est pas prêt de reprendre tout ce qui est traiteur.
Là, vous n'avez aucune indemnité, là, actuellement.
Actuellement, on n'a plus d'indemnité, non. On a grandi avec rien du tout. Le RSA, si la femme ne travaille pas, mais sinon, on est à la rue. Voilà.
D'accord. Je vous remercie beaucoup, monsieur.
Sur quelle radio ?
Fréquence Paris Pluriel.
D'accord.
Bonjour.
Bonjour.
Comment t'appelles-tu ?
Magali.
Qu'est-ce que tu fais comme travail, Magali, aujourd'hui ?
Je travaille à Pôle emploi, en lien avec la réforme de l'assurance chômage, ou plutôt la contre-réforme de l'assurance chômage, parce que moi, je travaille dans un service public, et j'estime que le service public il doit être en soutien aux personnes qui en ont besoin, et non pas leur mettre un peu plus la tête sous l'eau. Et cette contre-réforme de la réforme de l'assurance chômage, en plus de tout ce qui a pu se faire ces dernières années, ça ne va pas du tout dans le sens du jour d'après.
D'accord.
Un monde meilleur, quoi.
Alors apparemment, ce que j'ai vu, c'est que dans la nouvelle convention qu'ils sont en train de faire, là, il y aura plus de contrôle et moins de suivi et d'accompagnement.
Après, la question, c'est les effectifs qui existent, à quoi on veut les dédier. Et c'est vrai qu'on aurait plus besoin d'avoir du monde en agence, sur le terrain, pour recevoir les chômeurs et les chômeuses, que sur des plateformes à contrôler des dossiers. Alors la direction parle de redynamisation, sauf que la redynamisation, j'arrive même pas à dire le mot, c'est aussi peut-être juste recevoir les gens et faire un lien social aussi, parce que ça c'est super important. Sauf que dans la vraie vie, quand on a 300, 400, 500, 800 personnes à suivre, c'est un petit peu compliqué.
D'accord. Toi, actuellement, tu travailles sur quel NPE ? Sur quel emploi ?
Je travaille dans le 19e.
Dans le 19e. Et tu vois les difficultés, effectivement, au quotidien, donc j'imagine que tu les vois au quotidien. Est-ce que tu penses que cette réforme va apporter un mieux ou ça va être carrément pire ?
Pour les chômeurs et les chômeuses, ça va être pire.
D'accord.
Ça va être pire, l'indemnisation, déjà. Quand on voit que certaines allocations peuvent être divisées par deux, voire plus. Déjà, avec un SMIC, on ne vit pas. Alors, avec un minima social, on ne vit pas. C'est ça aussi la question.
D'accord. Je vous ai un peu l'avocat du diable, parce que je connais la réponse, bien sûr. Mais c'était juste pour avoir un petit peu la position par rapport à ce qui est en train de se signer, hein, pour le coup. Et tu penses qu'il va y avoir, au niveau de la délégation qui est actuellement au MEDEF, là, tu penses qu'il va y avoir des résultats ou
Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Et de toute façon, la seule réponse qui serait acceptable, je dis bien acceptable, ce serait l'abrogation dans un premier temps de ce décret du 26 juillet 2019. Mais c'est pas tout d'abroger. Après, il faut qu'on ait une vraie réflexion. Et quand je dis qu'on ait une vraie réflexion, c'est d'abord entre nous, les travailleurs, les travailleuses, qu'on soit en emploi ou pas, sur quelle assurance chômage on veut et de façon plus générale, quelle protection sociale on veut.
Très bien. Je te remercie beaucoup. Eh oui, magnifique chanson. Nous reprenons cette émission Mode d'emploi, émission des chômeurs précaires sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, station militante, émission militante aussi. Nous allons finir cette émission sur, bien sûr, un livre qui vient de sortir qui est assez excellent, puisque c'est une conversation entre Noam Chomsky, un linguiste renommé, bien sûr, et puis qui n'est pas que linguiste, bien sûr, qui discute avec un journaliste dont j'ai perdu le nom, avec Herman Féroz, voilà, c'est ça, qui est journaliste. Et donc, Ludo, je suis en train de commencer le livre, donc je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants. Tu as commencé à le lire
et... Absolument. Et en fait, je vous le conseille pour vos vacances, parce que c'est bientôt les vacances. C'est un livre de plage. Il se lit, d'abord, il est très très court, il fait 121 pages, il se lit vraiment très rapidement. Et en plus, il est de Noam Chomsky. Alors, on ne présente plus Noam Chomsky, hein, le linguiste célèbre, l'inventeur de la grammaire générative. Mais surtout, et c'est nous ce qui nous intéresse, grand militant, critique féroce des médias, enfin des grands médias, dans son livre La fabrication du consentement, qui est sorti en 1988, et qui a été depuis décliné en film et qu'on trouve encore sur YouTube. C'était un activiste contre la guerre du Vietnam avec l'historien Howard Zinn et Daniel Ellsberg, l'homme des Panama Papers, hein, qui divulguait les comptes rendus confidentiels de la Maison Blanche concernant l'origine de la guerre du Vietnam. Et donc Noam Chomsky a aujourd'hui 90 ans. Et donc et le livre qu'il publie, c'est une suite d'entretiens avec le journaliste Erhan Feroz, qui est journaliste germano-turc. Et donc c'est aux éditions Lux. Alors je recommande ce livre car il est court, il fait 121 pages comme j'ai dit, il se lit très facilement et on retrouve toutes les qualités de Chomsky, c'est-à-dire l'engagement citoyen. Donc Chomsky se considère comme un dissident et il ne se veut pas un expert. Un dissident citoyen, on va dire, et donc qui refuse de porter un regard d'initié sur les choses, bien que en réalité hein, il puisse l'être, initié, mais donc plutôt un regard neuf et dégagé des préjugés partisans de son appartenance au pays qu'il critique. Donc c'est aussi un homme extrêmement bien informé, à la culture encyclopédique, à la fois pédagogique.
C'est un érudit, hein, on peut dire ça comme ça.
Exactement, un érudit, décapant. Alors du coup, et même provocateur. Et donc c'est à lire, surtout si on n'est pas d'accord avec lui, parce que du coup ça fait quand même réfléchir. Et donc sur le fond, Chomsky manie les paradoxes. Donc moi je beaucoup sur les États-Unis. Hein. Et du coup j'en ai relevé quelques-uns. Donc par exemple aujourd'hui dans une émission sur le chômage ça s'impose. Aujourd'hui le plein emploi aux États-Unis, donc c'est avant le confinement, puisque les livres ont été créés avant le confinement, 3,5%. Signifie des bas salaires pour tout le monde, ou presque. Et c'est évidemment un paradoxe, et ça contredit la théorie, toutes les théories économiques néoclassiques qui veut que quand le chômage est bas, les salaires sont hauts. Mais bien entendu, il explique très bien pourquoi, puisque, comme il le dit, toutes les créations de contrats, 94% des contrats aux États-Unis sont des contrats dits atypiques, donc de quelques jours, voilà, comme il le dit en France. Alors, dans un autre ordre d'idée, il dit les 80% de valeurs marchandes qui transitent par les États-Unis ne sont pas le résultat du commerce, on ne peut plus appeler ça du commerce, mais une économie planifiée des entreprises, car il s'agit en fait d'échanges internes aux multinationales. Alors, il dit aussi, par exemple, que l'Amérique ne décline pas, mais que c'est d'abord que c'est devenu le pays de la plutocratie, hein, dans ce qu'on sait, puisqu'il est 1% des plus riches, et bien que la part du PIB donc des USA ait été divisée par deux depuis 1945, en réalité c'est simplement un transfert de la propriété, enfin des richesses créées nationales vers des multinationales américaines qui confisquent 50% des revenus de la valeur mondiale en fait. Hein. Et effectivement, dans le classement des grandes multinationales apparaissent toutes les grandes entreprises américaines. Alors Chomsky ne voit pas encore la Chine détrônée détrôner l'Amérique, et donc c'est bien l'Amérique qui reste sa préoccupation première, avec l'élection de Trump qu'il considère comme une catastrophe nationale. Il a appelé à voter démocrate en 2015, ce qui pour lui est quand même un peu difficile. Et donc il y a tout un chapitre sur, donc vraiment c'est un super bouquin, il y a tout un chapitre sur l'immigration,
oui,
aux États-Unis, qui lui lit directement aux problèmes que les Américains ont causé en Amérique centrale au moment des années 80, avec une politique un peu agressive. Et donc je ferai donc une seule critique à ce livre, c'est qu'il est toujours, comme tous les livres de Chomsky, très américano-centré, c'est-à-dire que finalement Chomsky réfléchit assez peu à la naissance du nouveau totalitarisme chinois, de la concurrence justement, enfin des impérialistes américains et des impérialismes chinois et russes qui prennent la place de l'impérialisme américain, pourrait-on dire. Et de la confrontation inévitable. Et donc, on aime bien Chomsky quand il critique l'État en général et quand il a des propositions sur la question.
Plus global plutôt que simplement États-Unis.
Plus qu'américain, mais bon, il en fait quand même. Il dit qu'il faut être très, très prudent sur la question de la critique de l'État. Il faut savoir bien manier. Il a dit que Marx avait des idées, mais qu'il était lui-même très prudent. Donc vraiment, je vous le recommande de lire, parce qu'après, ça fait beaucoup réfléchir.
Merci les deux pour cette analyse pertinente. Alors, je vous rappelle, c'est Noam Chomsky, La lutte ou la chute. Donc, c'est Pourquoi il faut se révolter contre les maîtres de l'espèce humaine. C'est des entretiens avec Emran Feroz. C'est collection Futur Proche, et ça a été édité il y a quelques mois, ou deux, trois mois à peu près. Donc, lisez-le, emmenez-le en vacances, je crois que c'est indispensable. On finit cette émission par deux petites annonces quand même, parce que nous venons de perdre notre président d'honneur de FPP. Hein. Donc c'est hommage à Maurice Rachus, samedi 4 juillet à la Parole Errante de 16h à 22h à Montreuil.
C'est demain.
C'est demain. Hein. C'est à la Parole Errante, donc c'est 9 rue François Rodenberg, ça excuse-moi, parce que je n'arrive pas à lire ton écriture.
Désolé, c'est François de Berg.
De Berg,
et c'est ça, oui, retransmis c'est ça. En direct sur FPP.
Absolument. Donc écoutez, venez d'ailleurs à la Parole Errante, parce que plus il y a de fous, mieux on rit, a priori. Hein. Il y aura en plus des débats très intéressants. Il y aura des projections de films également de ce monsieur qui est un grand monsieur, un grand militant. Hein, puisque...
Et tous ses livres.
Et tous ses livres, bien sûr. Voilà. Donc cette émission...
Oui, il y a aussi une manif à côté d'ici, c'est Place des Fêtes, hein, pour soutenir l'hôpital. En fait, c'est plutôt une invitation à venir discuter, des habitants à venir discuter à Place des Fêtes du système de santé. Et donc, il y aura des débats et des gens, des psychiatres, des économistes, des professeurs de médecine qui parleront avec le public. C'est demain à 17h.
Très bien, Place des Fêtes. Demain, 17h, Place des Fêtes. Cette émission se termine. Je vous remercie, messieurs, dames, de l'avoir suivi. Merci à Ludo de l'avoir faite avec moi et Claude aussi à la technique. Je fais un gros bisou aux filles, une poignée de main aux garçons. Et surtout, restez pour manifester, faire des occupations, continuer à lutter. Voilà, il faut absolument renverser ce gouvernement qui nous ment. Voilà, au revoir.
Bonne journée, bonnes vacances.